chose et pas des idées. Le roman a toujours été pour moi une tentative d'exploration du cœur humain. Je refuse de considérer l'homme comme un objet. Cette fidélité à mon moi profond, c'est peut-être le seul mérite que je reconnais à mon œuvre. Dans mon cas, on pourrait affirmer que depuis mon enfance assombrie par la crainte prématurée de la mort et mon adolescence tourmentée par la guerre civile, jusqu'à notre époque dominée par d'autres terreurs, j'ai toujours été possédée par un sentiment de solitude et de peur. L'homme, dans le monde romanesque de mes livres, est inévitablement un pauvre animal traqué, soit par l'ignorance, par la sottise ou par l'indifférence, ou l'organisation politico-sociale, ou la marginalisation, ou bien la violence. Je me suis érigée en censeur de notre époque pour enregistrer certains types humains qui subsistent, mais qui, pour une raison ou pour une autre, sont sur le point de disparaître.
Miguel Delibes est né en 1920 à Valladolid, en Castille, où il réside actuellement. Il est l'auteur le plus célèbre de sa génération. Il a écrit plus de 30 romans, dont plusieurs ont été portés au théâtre ou au cinéma. 5 heures avec Mario, précisément, a été adapté pour la scène et joué pendant plus de 2 ans. Cette publication en France est un événement, car il n'existait jusqu'ici, à part ce roman donc traduit par La Découverte, que 2 romans de Miguel Delibes, traduit en français depuis plus de 20 ans. L'histoire, rapidement, une femme vient de perdre son mari prématurément, emporté par une crise cardiaque. Après le départ des nombreux parents, amis et connaissances venus lui présenter leurs condoléances, cette femme reste seule pour veiller le corps. Sur la table de nuit, une Bible. Toute la nuit, la veuve feuillette le livre et lit les passages que son mari avait soulignés. Chacun d'eux provoque chez elle une réaction, un souvenir, un commentaire, et sa vie se reconstitue peu à peu dans ses erreurs et ses maladresses, à mesure que se dessine le personnage du mari défunt, tout à fait différent de l'image qu'en avait son épouse, elle-même victime d'un milieu étriqué. Tel est ce livre étonnant, qui est une sorte de réflexion à bâton rompu, à partir de la lecture d'un livre qui fut le livre de chevet du mari, la Bible donc, dont Mario était imprégné, mais pas au point d'avoir une conduite modèle.
Moi, comme romancier, j'ai adopté une attitude morale. C'est une chose que je n'ai jamais démentie, étant donné que mon aspiration esthétique a toujours été liée à une préoccupation éthique.
Oui, alors ces paroles de Miguel Delibes, je suppose que c'est vous qui les avez traduites, hein, Robert Monnier, puisque vous avez traduit tous les livres de Miguel Delibes qui sont parus en français, y compris le dernier qui vient de paraître aux éditions de La Découverte, 5 heures avec Mario. Alors Miguel Delibes, c'est quelqu'un qui est pratiquement inconnu en France, puisque les 2 premiers livres sont parus il y a 20 ans. Et par contre, en Espagne, c'est un des plus grands auteurs actuels.
Oui, on peut dire que Miguel Delibes, en Espagne, c'est le plus aimé des grands écrivains contemporains. Tous les Espagnols le connaissent, l'admirent et puis l'aiment aussi avec leur cœur. Car c'est un auteur très émouvant et les Espagnols l'aiment énormément. Moi-même, je le connaissais depuis très longtemps, puisque je suis professeur d'espagnol et j'avais étudié ses œuvres à l'université, comme tous les étudiants d'espagnol. Mais je l'avais oublié, disons, pendant quelques temps. Et ensuite, en 1980, j'ai assisté à Madrid à une représentation théâtrale de 5 heures avec Mario. Parce que justement, on a extrait de ce roman une pièce de théâtre que je trouvais admirable. Je l'ai tellement aimé qu'en revenant de Madrid, j'ai décidé de traduire le roman pour le faire connaître.
Miguel Delibes, c'est quelqu'un qui n'est pas tout jeune, c'est pas un jeune auteur espagnol.
Non, bien entendu, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle la movida. J'ai d'ailleurs été très frappée, moi, de l'ignorance des Français dans le domaine de la littérature espagnole contemporaine. J'ai été tellement choquée parce que tout ce qui se publiait depuis quelques années de littérature en langue espagnole, c'était de la littérature sud-américaine. Il y a eu une grande vague de littérature sud-américaine, et loin de moi l'idée de dénigrer cette littérature, fort intéressante d'ailleurs. Mais la littérature espagnole n'a pas intéressé les éditeurs français pendant de longues années. Je pense qu'on pourrait trouver plusieurs raisons à cela. Sans doute, 40 ans de dictature n'ont pas permis à l'Espagne de franchir les Pyrénées. Beaucoup d'écrivains avaient émigré ou étaient exilés. Et ensuite, il y a eu énormément de difficultés pour les auteurs espagnols de s'exprimer. Et pourtant, il y avait quand même un grand désir de s'exprimer chez les écrivains espagnols qui sont restés en Espagne. Et en particulier, je crois qu'on pourrait citer 3 ou 4 grands auteurs, si vous permettez, qui sont tous des gens de cette génération, comme Miguel Delibes, Torrente Ballester, Juan Gotisolo et Camilo José Cela, pour ne citer que les 3 ou 4 plus célèbres, ont beaucoup écrit sous la dictature et sont arrivés à s'exprimer tout de même dans une certaine mesure.
Quand on lit le roman de Miguel Delibes, 5 heures avec Marion, on s'aperçoit tout de suite qu'effectivement il y a une différence énorme de style, d'imaginaire avec la littérature sud-américaine. En fait, ça n'a rien à voir, même si c'est la même langue.
Exactement. La littérature sud-américaine, sans doute par l'effet de cette nature énorme, a donné lieu à beaucoup d'imagination. C'est une littérature d'imagination avec une grande importance des légendes et de beaucoup de choses irréelles et de grands sentiments, mais aussi d'imagination. Tandis que la littérature espagnole est beaucoup plus réaliste, en particulier celle de Miguel Delibes, mais celle de tous les écrivains espagnols de cette génération, c'est une littérature très réaliste, très intimiste, et aussi quelquefois avec certaines outrances, un peu triviales, et un mélange de genres à la fois tragique et comique que les Français ne saisissent pas toujours très bien.
Maison, fortune, héritage viennent des parents, mais avoir une femme raisonnable est un don de Dieu. En ce qui concerne mon amour, je suppose que tu es satisfait. Tu as de bonnes raisons. Entre nous, la vie ne t'a pas trop maltraité, dis. Une femme, rien que pour toi, présentant bien, qui a fait des miracles avec 4 sous, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, détrompe-toi. Et maintenant que les ennuis commencent, allez, au revoir, comme la première nuit. Tu te rappelles? Tu t'en vas et tu me laisses me débrouiller toute seule. Ce n'est pas que je veuille me plaindre. Comprends-le bien. Il y en a de plus malheureuses, regarde, Trinzi, avec ses 3 petits. Ce qui me fait enrager, en vérité, c'est que tu t'en ailles sans avoir jamais remarqué mon dévouement, sans un mot de reconnaissance, comme si tout ça était normal et courant. Vous, les hommes, dès que vous êtes passé devant monsieur le curé, vous êtes tranquille, une assurance de fidélité, comme je dis. Vous, ça ne vous engage à rien. Vous filez faire la noce comme vous en avez envie, et voilà, un point, c'est tout. Tandis que nous, les femmes, tu le sais bien, nous sommes romantiques. Des idiotes. Je ne veux pas dire que tu aies été frivole, mon amour, il ne manquerait plus que ça. Je ne veux pas être injuste, tu sais, mais je n'en mettrai pas non plus ma main au feu, tu vois? Manque de confiance? Appelle-le comme tu voudras, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec vous qui vous prenez pour des gens parfaits, il faut se méfier. Cette année-là, sur la plage, tu as jeté des regards à droite et à gauche, mon chéri. Tellement que ma pauvre maman, qu'elle repose en paix, avec cet œil clinique qu'elle avait, je n'en ai jamais vu de pareil. Tu sais, elle disait, l'homme, le meilleur, devrait être attaché. Et regarde, incarne, c'est ta belle-sœur, je le sais bien, mais depuis qu'Elviro est mort, elle te courait toujours après. Personne ne me l'enlèvera de la tête. Incarne, elle a des idées très particulières sur les devoirs des autres, mon amour. Elle pense que le frère cadet doit remplacer le frère aîné et autre chose de ce genre. Entre nous soit dit, je t'avouerai que lorsque nous étions fiancés, que nous allions au cinéma et que je l'entendais chuchoter avec toi dans la pénombre, ça me rendait folle. Et toi, tu répétais toujours que c'était ta belle-sœur, évidemment, qui te dit le contraire. Tu t'en tires toujours avec une pirouette. Quand il s'agit de justifier l'injustifiable, et tu trouves toujours des excuses pour tout le monde, sauf pour moi. Rien à faire. Mais ce n'est pas pour dire, mon chéri, mais à tort ou à raison, tu ne m'as encore jamais raconté ce qui s'est passé entre Encarna et toi le jour où tu as réussi le concours. Je me demande encore quel rôle elle jouait dans cette affaire, car dans ta lettre tu disais seulement « Encarna a assisté à la délibération et ensuite nous avons fêté mon succès ensemble ». Mais il y a différentes manières de fêter quelque chose, il me semble. Toi, tu disais simplement « Nous avons pris une bière et quelques gambas à Fruima ». Allons, ne me prends pas pour une imbécile. Comme si je ne connaissais pas Encarna. Un sacré tourbillon, celle-là, mon vieux. Tu crois que j'ai oublié quand elle se collait sur toi au cinéma alors que j'étais là? Oui, je sais. Nous n'étions pas encore mariés à l'époque. Il ne manquerait plus que ça. Mais si je me rappelle bien, ça faisait déjà 2 ans que nous sortions ensemble. Et une relation comme celle-là, toutes les femmes la respecteraient, sauf elle. Tu peux me croire. Elle me faisait sortir de mes gonds avec ses simagrées et ses niaiseries. Tu crois que, la connaissant et vous voyant tous les deux ensemble, je vais avaler qu'Encarna pouvait se contenter d'une bière et de quelques gambas? Ce n'est pas le pire, remarque, car en fin de compte, nous sommes si peu de choses. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est ta réserve. Aie confiance. Encarna est une bonne fille, elle est seulement traumatisée par son malheur. Tu parles. Comme si j'étais né de la dernière pluie, raconte ça à d'autres moins avertis, mais en ce qui me concerne... Tu as vu la scène d'hier, mon amour? Quel ouragan! Tu ne vas pas me dire que c'est la réaction normale d'une belle sœur? Elle a attiré l'attention de tout le monde, et moi je me sentais diminuée, comme si j'étais une femme dépourvue de sentiments et quoi encore. Et Vicente, sortez-la d'ici, elle est très affectée. Il m'a énervée, celui-là, je te jure. La main sur le cœur, Mario. Tu crois que c'était bien à propos? On aurait dit que c'était elle, la veuve, ma parole. Je te parie ce que tu veux, qu'à la mort d'Elviro, elle n'en a pas tant fait à se demander ce que j'aurais dû faire, moi.
Le style de 5 heures avec Mario de Miguel Delibes est très parlé.
En effet, il s'agit donc d'un monologue. Et cette femme qui s'exprime pendant, soi-disant, 5 heures où elle reste près du cadavre de son mari, s'exprime comme on s'exprime tous les jours. D'ailleurs, c'est une passion pour Miguel Delibes, la langue des gens de sa terre. C'est une langue très familière, très imagée, qui d'ailleurs a représenté une très grosse difficulté de traduction, vous vous en doutez, puisqu'il y a énormément de proverbes, d'images, d'expressions, d'ailleurs, quelquefois même impossibles à traduire. Pour vous donner un petit exemple, pour dire à quelqu'un de quoi tu te mêles, on lui dit qui t'a donné cette bougie pour assister à cet enterrement. Et de nos jours, on entend des gens de 20 ans dire ça en Espagne encore dans le langage familier. On a gardé les images, les proverbes, la manière de parler de nos grands-mères à nous en France ou de la campagne. Et c'est une langue très, très riche, très imagée, que Miguel Delibes cisèle d'ailleurs et cultive. Il y tient énormément.
J'imagine que le style est aussi dicté par le rythme de la langue espagnole, ce qui a dû être une difficulté supplémentaire pour vous qui avez traduit le livre.
Bien entendu, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que Miguel Delibes s'est adapté le style à l'œuvre. Et quand on lit d'autres livres, on est surpris de la différence. C'est toujours un style familier, un style parlé, mais avec une différence selon le caractère du personnage. Et même le personnage de 5 heures avec Mario emploie elle-même deux langages différents. Quand elle parle de son milieu à elle, ce milieu conformiste, ce milieu de respect à l'ordre établi, elle emploie un certain langage. Mais quand elle parle de son mari et de son environnement, eh bien elle emploie un vocabulaire beaucoup plus trivial pour le critiquer et une langue différente. Et dans d'autres romans de Miguel Delibes, on assiste à un style, on voit un style encore différent. Et en particulier dans un livre où il parle par la bouche d'un enfant de 4 ans, ce qui est assez admirable chez cet homme de 60 ans, où il voit les problèmes d'une famille à travers un tout petit enfant. Et c'est extraordinaire, la limpidité du langage, la fraîcheur du vocabulaire.
Morito Pitito, del nombre Pirulito. revuelto con la sal, la sal y el perejil don bon, las armas del nombre virulí, del nombre virulón.
Et puis, quel tabagie, mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas à fumer si longtemps? Vous refaisiez le monde, sûr, vous ne laissiez même pas parler l'autre. Quel cri, oh là là, tout ça pour rien, quelques bêtises. L'argent est sale, l'argent est égoïste. Tu vois, la seule chose que vous ne disiez pas à propos de l'argent, Mario, la seule vérité, c'est que l'argent est indispensable. Au lieu de tant en parler de l'argent, vous auriez mieux fait d'en gagner, comme je dis. Parce que toi, tu sais écrire, mon chéri. Je te le dis et je te le répète. La seule chose, les sujets, je ne sais pas comment tu t'y prenais, mais même à la loupe, on n'en trouverait pas de pareil. Et encore, quand on te comprenait, car lorsque tu commençais à parler de structure et d'autres choses de ce genre, je n'y pigeais rien du tout, je te promets. J'aurais tant aimé que tu écrives des romans d'amour. Voilà un sujet qui touche les gens, Mario. Parce que l'amour est un thème éternel. Parce qu'il est très humain et à la portée de toutes les mentalités. Ah, si tu m'avais écouté. L'histoire de Maximino Candé. Tu imagines? Un homme mûr, marié en seconde noce avec la mère et amoureux de la fille. Un vrai sujet de cinéma. Eh bien, même pas ce plaisir, il faut toujours que tu prennes le contre-pied. Je ne veux pas pleurer, Mario, mais si je regarde en arrière, je remarque que tu n'as pas souvent tenu compte de mon avis. N'y peux rien. Est-ce que cela t'aurait coûté tellement d'efforts de gagner de quoi acheter une Fiat 600? Dis, fainéant. Je ne dis pas autrefois, mais maintenant, regarde, on dirait qu'on en fait cadeau. Mario, tout le monde en a une, c'est pour ça que l'autre jour, Paco m'a demandé « Tu sais conduire ?» Très peu, presque pas. Qu'est-ce que je pouvais lui répondre? Nous n'avons pas de voiture. Si tu l'avais vu alors se donner des grands coups sur la tête. Non, 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 il ne le croyait pas, tu penses? Les enfants auraient été fous de joie avec une Seat 600. Quant à moi, tu te rends compte? Qu'est-ce que ça m'aurait changé la vie? Mais non. Une voiture, c'est un luxe. Allons donc, à notre époque, si on t'entendait. C'est comme pour l'argenterie. 23 ans, Mario, j'ai attendu découvert en argent. C'est vite dit. 23 ans à attendre pour rendre les invitations des amis. Car chaque fois que je les invitais, repas froid à base de toast. On ne peut pas faire de miracle. Quelle honte, grand Dieu! Sincèrement, tu crois que c'est une vie pour une fille de la bonne société? Ne nous y trompons pas, Mario. On ne peut pas renier ses origines. Et toi, depuis le jour où je t'ai connu, tu as toujours eu des goûts prolétaires. Parce que, franchement, qui diable aurait eu l'idée d'aller au lycée à bicyclette? Dis-moi, crois-tu que c'était convenable pour un homme comme toi? Crois-moi, Mario, mon chéri, le vélo, ce n'est pas pour les gens de ta classe. Et chaque fois que je te voyais dessus, ça me faisait mal au cœur. Et ne parlons pas du jour où tu as mis le siège pour le petit sur la barre. Je t'aurais tué, vois-tu? J'en ai même pleuré et tout. Je ne veux pas penser que tu le faisais exprès pour m'humilier, Mario. Et ça me fait mal que tu ne m'aies jamais demandé mon avis. C'est comme avec Bertrand. Est-ce que tu crois que c'est convenable pour un professeur de se montrer en public avec un concierge? Bien sûr que non, espèce d'idiot. On dirait que c'est moi qui suis bizarre. Quelle idée de bavarder toujours avec lui. Non, monsieur, tout au plus, bonjour et bonsoir. Pour rien, simplement parce que ce sont deux mondes. Mais toi, il fallait tout le temps que tu lui tires les verres du nez, tu lui demandais s'il gagnait beaucoup ou peu, tu lui montais le coup, c'est tout ce que tu faisais. Et si au lieu de tant te préoccuper de savoir ce que gagnaient les autres, tu t'étais un peu plus occupé d'en gagner toi-même, ça n'aurait pas été la même chanson. Car en résumé, si Bertrand ne gagnait pas grand-chose, tu ne vas pas comparer. Lui, dans sa position, il peut sortir en pantoufles ou n'importe comment. Tandis que toi, tu dois sauver les apparences, voyons, et te mettre au diapason avec les gens de ta classe. Eh bien, qu'en ce qui concerne les vêtements, tu m'es là aussi complètement désespéré.
Mais c'est d'ailleurs très amusant que l'autorité franquiste n'ait pas réagi à ce livre, parce que le subterfuge est quand même assez facile à découvrir, puisque Miguel Delibes ben, a profité de ce monologue, puisqu'il s'agit d'une femme qui pendant 5 heures parle au cadavre de son mari et en profite pour lui faire d'amers reproches et pour se défouler de tant d'années de silence. Et à travers les critiques de Mensch, l'héroïne, qui critique son mari, on voit apparaître, nous, un personnage complètement différent et par lequel, finalement, Miguel Delibes fait passer ses idées, qui étaient des idées libérales, généreuses, humanistes, d'un homme qui était, en fait, Miguel Delibes était un chrétien de gauche, qui n'a pas eu un engagement politique très précis, mais qui, toute sa vie, a exprimé des idées humanistes, dirons-nous.
Vous m'avez fait remarquer d'ailleurs judicieusement que le héros, qui donc est mort et est absent, le héros du livre, porte les mêmes initiales que Miguel Delibes.
En effet, il s'appelle Mario Diez et Miguel Delibes, M.D. Et l'auteur s'est vraiment beaucoup investi dans ce roman. Il me l'a raconté lui-même. D'abord, il y a mis des quantités d'anecdotes qui lui sont arrivées à lui-même. Par exemple, quand il a eu des problèmes avec la police parce qu'il avait traversé un parc à bicyclette la nuit, il s'était fait frapper par un policier et il a porté plainte contre la police à l'époque. C'était quand même assez extraordinaire à l'époque de porter plainte contre la police. Il a d'ailleurs perdu et il a eu quelques petits ennuis. Mais à part ça, dans tout le livre, il y a une critique dissimulée de l'autorité espagnole de l'époque. Mais il s'est en effet investi comme un intellectuel. Mario lui ressemble par quelques côtés, par son souci de justice sociale, par exemple, par sa défense des opprimés, des gens les plus faibles, dans la manière dont il considère les serviteurs que sa femme méprise et lui-même essaie toujours de se préoccuper d'eux, de leur situation, alors que sa femme, au contraire, les regarde du haut de sa grandeur, comme on le faisait à l'époque dans ses familles. Il n'était pas question ni de manger avec une femme de ménage, une employée de maison, ni de parler longuement au concierge, comme le fait Mario.
Venez et regardez l'œuvre de Dieu, les prodiges qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui fait cesser la guerre jusqu'aux confins de la terre. C'est lui qui brise l'arc, qui rompt la lance et qui jette au feu le bouclier. Quant à moi, quoi que vous en disiez, j'ai passé du bon temps pendant la guerre. Écoute, je ne sais pas si je suis trop légère, mais j'ai passé quelques années formidables, les meilleures de ma vie, je t'assure. Tout le monde avait l'air d'être en vacances. La rue était pleine d'enfants, quelle agitation! Je ne me souciais même pas des bombardements, ils ne me faisaient pas peur, ni rien, alors que d'autres criaient comme des folles, chaque fois que les sirènes sonnaient. Moi non, ma parole, tout m'amusait, quoique avec toi, pas plus à ce moment-là que plus tard, impossible d'en parler. Chaque fois que j'entamais le sujet, tais-toi s'il te plaît, et bouche cousue. Si tu y regardes bien d'ailleurs, mon chéri, des conversations sérieuses, ce qui s'appelle des conversations sérieuses, nous n'en avons pas eu beaucoup. Les vêtements ne t'intéressaient pas, la voiture n'en parlons pas, les fêtes non plus, et la guerre, qui a été une véritable croisade, tout le monde le dit, te semblait être une tragédie totale. Si nous ne parlions pas de l'argent qui est sale, des structures et de toutes ces choses, toi, pas un mot. Et avec les enfants, c'était pareil. Il fallait te voir quand je racontais un bon mot de Borja ou d'Arantzazu. Au début, très bien. Et au bout d'une minute, tu disais que cet enfant te préoccupait ou bien qu'allait devenir cette fille. Tu m'ennuyais, mon chéri, avec tes angoisses. Oiseau de mauvais augure, comme dit Valène, à juste raison. Si tu avais entendu Borhar hier. Je veux que papa meure tous les jours pour ne pas aller à l'école. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement comme je te le dis. Devant tout le monde, il m'a coupé le souffle. Je lui ai flanqué une de ses raclées, crois-moi. Car s'il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est un enfant dépourvu de sentiments. Il n'a que 6 ans, le pauvre. Je le sais, je ne le discute pas, mais si, à 6 ans, tu ne le corriges pas, jusqu'où irons-nous? Peux-tu me le dire? Bon. Et toi, toujours faible, laisse-le, la vie lui apprendra à souffrir. Mais voilà bien, si on tolère tout, si on rit de leur répartie. Après, tu vois ce qui arrive. C'est comme pour les études de Manchu. Cette petite, les livres ne l'attirent pas. Et moi, je l'en félicite, parce qu'en définitive, pourquoi est-ce qu'une femme étudierait? Que peut-elle en retirer? Dis-moi. Elle devient homasse. Ni plus ni moins. Une fille qui poursuit ses études perd sa féminité. Inutile de chercher midi à 14h. Pour moi, une fille qui étudie n'est pas sexy. Ce n'est pas son affaire. Voyons, crois-moi. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai étudié, moi? Et pourtant, tu ne faisais pas la fine bouche. Car à l'heure de la vérité, vous, les intellectuels, ce que vous cherchez finalement... C'est une bonne femme d'intérieur, ne dis pas le contraire. Oh là là, avec tes yeux de mouton qu'on égorge, tu me faisais pitié. Mais au fond, si tu m'avais connue à l'université, tu m'aurais fait foot comme les chats. Ah, vous, les hommes, on vous voit venir de loin. S'il y a quelque chose qui blesse votre amour-propre, c'est bien de rencontrer une fille qui vous dame le pion pour la culture. Regarde. Paquito Alvarez, sans aller plus loin. Chaque fois qu'il employait un mot mal à propos et que je le corrigeais, il devenait fou, bien qu'il fasse semblant d'en rire. Tu parles. Bien sûr. Paco, il venait d'un milieu d'artisans et il encaissait mal le coup, c'est vrai. Tu sais ce que disait maman à ce propos? Eh bien, elle disait... Une fille de bonne famille, il lui suffit de savoir marcher, savoir regarder et savoir sourire. Et ça, le meilleur professeur ne peut le lui enseigner. Tous les matins, elle nous faisait marcher, Julia et moi, le long du couloir pendant 10 minutes. Un gros livre sur la tête et disait avec beaucoup d'esprit, « Vous voyez que les livres peuvent parfois servir à quelque chose. »
Manchu. C'est un personnage qui, par moments, nous apparaît comme vraiment la petite bourgeoise telle qu'elle était en Espagne à l'époque, qui avait subi une éducation très particulière, avec toujours une référence à l'Église, à la famille, toujours un très grand respect de l'ordre établi, de toutes les et tous les privilèges de ces familles-là. Et Carmen, elle est vraiment la représentante de cette classe sociale. On le voit dans toutes ses paroles, et d'ailleurs elle décrit son milieu avec beaucoup de réalisme. À la fin du livre, on se rend très bien compte de la manière dont vivaient ces gens. Ce qui fait que par moments, elle nous apparaît insupportable, irritante, d'une sottise vraiment irritante. Mais pourtant, quand elle se plaint de sa vie de femme, petit à petit, on s'aperçoit que ses critiques sont justifiées. Les femmes n'avaient pas une vie facile à l'époque. Et quand elle dépeint toutes ses difficultés au sein de cette nombreuse famille, toutes les tâches matérielles, le manque d'argent, et ensuite cet intellectuel qui était peut-être quelqu'un de très intéressant sur le plan social, mais qui, comme Marie, n'était pas drôle tous les jours. D'ailleurs, l'auteur lui-même me l'a dit, il avait un souci de ne pas avoir dépeint des caractères manichéens. Et il était bien conscient que Mario n'était pas un modèle de Marie.
Un livre, des voix, une émission présentée par Pierre Cipriot. Aujourd'hui, 5 heures avec Mario, de Miguel Delibes. Traduction Anne-Robert Meunier, publiée aux éditions La Découverte, avec la voix de Michel Fouché. Groupe de réalisation, prise de son et mixage Pierre Laya, collaboration technique Hervé Kelfers, assistante Sylvie Migaud, une émission réalisée par Marguerite Gâteau qui s'entretenait avec Anne-Robert Meunier. France Culture, 14h30.